Posons-nous les bonnes questions pour accélérer la transition écologique des collectivités. Avec Territoire et Sobriété, le podcast de l'ADEME et du ministère de la Transition écologique, partons pour un tour de France d'initiatives locales en faveur de la sobriété matérielle. Retrouvez les épisodes sur www.epargnonoresources.gouv.fr/collectivité.
BFM Business. Check-up santé au cœur de l'innovation santé. Fabien Guèze.
Bonjour à tous, ravi de vous retrouver sur BFM Business dans Check-up Santé. Saviez-vous que seuls 36% des infirmières étaient satisfaites de leur situation professionnelle et 60% envisageaient de changer de profession selon une récente enquête IFOP. Une ex-infirmière, Charlotte Kerbrat, a fondé Charlotte K pour aider les infirmières à évoluer ou se reconvertir et elle est avec nous dans Check-up Santé. Nous savons tous marcher, mais pas toujours, puisque l'on se fait 6000 entorses de la cheville par jour en France. La cheville est une articulation très complexe. C'est pourquoi deux chirurgiens orthopédiques, Christophe Sermolatch et Olivier Lafenêtre, ont créé l'Institut de la cheville et du pied et ils sont sur le plateau de Check-up Santé. Enfin, plus d'un tiers des Français parlent de santé sur les réseaux sociaux. Une très utile start-up, Capcode, fondée et dirigée par Adèle Mébarki, scanne et analyse des données publiques sur les réseaux sociaux, dont le but est de mieux comprendre les patients et faire ainsi avancer la science. Check-up Santé, c'est parti. Charlotte Kerbrat, bonjour.
Bonjour.
Alors, merci d'avoir accepté d'être avec nous en visio de Brest, parce que vous attendez un heureux événement. On m'a dit que c'était le troisième, donc bravo. Et c'est vrai que vous êtes au huitième mois, je crois que donc il vous est assez difficile de vous déplacer. Vous êtes infirmière, vous avez fondé en 2020 la société Charlotte K. Vous avez ainsi raccroché votre blouse en 2020. Pourquoi ?
Alors pourquoi ? C'est un long parcours, un long cheminement. Je ne l'ai pas quitté du jour au lendemain, mais pour faire simple, en fait, c'est parce que j'arrivais pas à évoluer dans mon métier, évoluer professionnellement dans mon métier comme je le voulais. Donc du coup, j'ai créé du coup Charlotte K pour aider celles et ceux qui voulaient également évoluer dans leur métier et qui n'y arrivaient pas, qui ne trouvaient pas de réponse à leurs questions.
Alors on sait évidemment que le bilan de l'enquête dont on va parler n'est pas très reluisant. Il y a combien d'infirmières en France ?
700 000 à peu près.
700 000, oui. Et on est aussi en pénurie
Oui, complètement. Oui.
Aussi bien pour l'hôpital que pour le libéral ?
Un peu partout, oui, tout à fait.
Ouais, j'ai lu que vous aviez dit qu'il y avait 210 infirmiers pour 10 000 habitants en Norvège et qu'en France, c'était que 87. Donc, c'est assez significatif. Alors, à quels problèmes sont opposés les infirmières on a dit l'effectif, mais il y a d'autres choses ?
Oui, les deux grandes difficultés, on va dire, dont se plaignent les infirmières et infirmiers, ce sont déjà les conditions de travail. Donc vraiment, c'est la réponse qui revient beaucoup et qui est revenue dans le code IFOP et des problèmes d'organisation aussi au sein du travail. Donc qui découle forcément sur une mauvaise prise en charge des patients. Mais du coup, c'est vraiment les conditions de travail et l'organisation qui pêchent beaucoup en ce moment.
Oui, j'imagine que la rémunération fait aussi partie des plaintes.
Oui, c'est aussi une plainte. On va dire tout ce qui est reconnaissance, en fait, ce qui passe par la reconnaissance financière, mais au niveau de la reconnaissance aussi, soit donc financière par la rémunération ou par la reconnaissance de la société, de la hiérarchie, des patients aussi. C'est aussi quelque chose qui est compliqué à vivre en ce moment. Oui.
Alors donc, vous avez créé Charlotte K pour venir en aide à ces infirmières. Je précise que je dis infirmière avec votre accord.
Oui.
D'accord, parce que certains me reprocheront de ne pas dire infirmière. Mais avant de parler de votre aide, de votre action sur la reconversion, on va parler de l'enquête nationale que vous avez lancée avec IFOP et infirmiers.com. Sur combien d'infirmières ?
On a eu plus de 4200 réponses d'infirmières et infirmiers.
Donc j'imagine que c'est une enquête très récente, évidemment.
C'est une enquête qui est récente, elle date de mars 2023. Et on l'a lancée parce qu'en fait, on voulait vraiment avoir des réponses très concrètes de terrain et poser avec des questions aussi de terrain, parce que nous, on est tout en salle d'infirmières dans l'équipe. On l'a créé du coup avec l'association SPS et infirmiers.com, en effet, qui sont des personnes de terrain aussi. Et du coup, on a posé les bonnes questions pour avoir des réponses, on va dire, un petit peu nouvelles. Donc des réponses qu'on n'aura pas forcément partout, parce qu'on aura posé des questions un petit peu nouvelles, finalement, aux IDE.
Alors, il paraît qu'elles sont toutes satisfaites de leur job ?
Très.
Très. 36%, c'est ça, non ?
Ouais, c'est ça. 36% sont satisfaits. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a seulement 3% qui sont très satisfaits de leur travail. Donc finalement, il y a quasiment 40% des idées qui ne sont pas satisfaits, dont un quart, 22%, quasiment un quart, qui se disent ne pas être satisfaits du tout. Donc là, c'est vraiment un chiffre assez marquant. Ouais.
Et elles sont très majoritairement fatiguées, stressées.
C'est ça. On a posé la question sur leur état psychologique, parce que c'est quand même important de savoir comment est-ce qu'elles prennent en charge les patients. Et sur le critère fatigue vs repos, on a quand même 94, donc la quasi-totalité des infirmières et des infirmiers qui se disent fatigués. Donc 94% répondent « on est fatigué », ce qui est inquiétant aussi pour la prise en charge derrière des patients, parce qu'on dit comment est-ce qu'on peut bien prendre en charge des patients, éviter les erreurs quand on est nous-mêmes fatigués. C'est ça qui est un petit peu compliqué, oui.
Alors, ce qui est aussi incroyable, c'est que 60% des infirmières en France choisiraient de ne pas refaire ce métier.
Ouais, on a posé cette question-là aux infirmières. On s'était dit, on pose pas cette question, on ne sait pas trop comment la tourner. Et finalement, en posant la question, est-ce que tu rechoisirais infirmière si là, tu avais 18 ans, tu étais en fin de lycée? Seulement 40% en effet ont répondu oui, donc ça veut dire que 60% ne referaient pas infirmière. Donc c'est un chiffre qui est quand même énorme, qui veut tout dire sur la situation actuelle, qui n'est même plus une pénurie, mais je pense qu'on peut dire que c'est vraiment une fuite des soignants, et qui veut dire aussi que par la suite, c'est un problème d'attraction du métier, parce que finalement, les petits jeunes qui arrivent, les jeunes diplômés, les jeunes qui se posent la question, avec 60% des infirmières qui n'auraient pas envie de refaire le métier, forcément, ça fait un métier qui n'est pas très attractif pour la suite.
Alors, votre mission, c'est la reconversion des infirmières, mais j'imagine majoritairement dans leur propre profession.
Oui, vraiment. Oui. Le but premier, en fait, c'est déjà d'éviter, comme je vous disais, la fuite des soignants. Parce qu'on est vraiment face à une... Voilà, même plus une pénurie, c'est une fuite. Donc, comment faire de la rétention au maximum? Et parce que par amour du métier, le but aussi, c'est de garder quand même des soignants. Parce que aussi, moi, je suis passée par là et je me suis rendu compte en tant qu'infirmière qu'on n'était pas assez informée sur qu'est-ce qu'on pouvait faire après infirmière, on va dire en soins généraux à l'hôpital, dans des services classiques. Et beaucoup d'infirmiers ignorent quelles sont les façons d'évoluer, enfin quelles sont toutes les façons dont on peut évoluer avant justement de remettre la blouse et de quitter complètement le métier. Donc c'est vraiment la priorité numéro une, c'est d'assurer que avant de quitter le métier, est-ce que je connais toutes les façons, tous les services, les spécialisations qui existent et dans lesquelles je pourrais exercer. D'accord. Éventuellement.
Alors évidemment, et là s'il y a certaines infirmières qui décident de changer complètement d'univers, et là aussi vous les aidez.
Ah oui, évidemment. Le but, en fait, c'est pas d'avoir des infirmières ou des infirmiers qui sont mal dans leur peau, mal dans leur service et qui vont forcément mal prendre en charge les patients. Et c'est aussi de valoriser leur diplôme parce qu'on a un niveau de licence maintenant qui est reconnu donc dans le cursus LMD. Et on peut faire des passerelles vers d'autres métiers, évidemment. Donc, c'est de mettre en valeur aussi ce niveau d'études-là pour inciter à partir dans des masters. Et il y a aussi, par exemple, tout ce qui est master management. Donc, on n'est plus dans le milieu de l'infirmière, mais on peut aussi encadrer les établissements de santé, par exemple. Donc ça, évidemment, on les accompagne également là-dedans. Oui.
Bah, bravo, je vois que c'est une super réussite. Vous êtes plusieurs collaborateurs?
Oui, on est une bonne trentaine dans l'équipe,
ouais,
maintenant.
Ah oui, quand même. Une véritable entreprise répartie dans toute la France, c'est ça, non?
C'est ça, on est répartie dans toute la France pour justement pouvoir rayonner dans toute la France, les dom-toms et un petit peu dans les pays francophones également.
Et combien d'infirmières déjà coachées?
Un peu plus de 1500 déjà, oui.
Bravo, magnifique. Dernière question, un garçon ou une fille?
Ah, c'est la surprise.
La surprise, d'accord. Ok. Bon, ben merci beaucoup. Merci beaucoup, Charlotte. Voilà, on va à présent accueillir Christophe Sermolatch et Olivier Lafenette, chirurgien orthopédique.
BFM Business, Check-up santé, au cœur de l'innovation santé.
Christophe Sermolatch, bonjour. Vous êtes chirurgien orthopédiste à Marseille et à Paris. Olivier Lafenêtre, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes aussi chirurgien orthopédiste et vous partagez entre Paris et Bordeaux, c'est ça?
C'est ça.
Alors, je l'ai dit en introduction, 6000 entorses de cheville par jour en France, c'est beaucoup quand même. Est-ce qu'on ne sait plus marcher?
Non, je pense que c'est pas qu'on ne sait plus marcher, je pense que les activités ont changé. Mmh. Les gens font beaucoup plus de sport qu'auparavant, je pense. Il y a des tas d'activités physiques comme le vélo, les trottinettes, comme on le voit à Paris, Et donc, je pense que ça favorise quand même une torsion plus fréquente. Autant qu'on est surpris psychologiquement souvent quand on marche.
Et pourtant, les gens, même les femmes, sont plus en basket qu'en talons aiguilles.
Oui.
Est-ce qu'il y avait plus d'entorses à l'époque avec les talons aiguilles
Avec les talons aiguilles, il y a une instabilité, le vrai talon aiguille. Mm-hmm. Mais c'est quand même plutôt la pratique sportive. Dans ces 6000 entorses, c'est probablement plus de 80% d'activité physique et sportive.
Alors évidemment, il n'y a pas que cette pathologie hein, sur la cheville, il y a aussi l'arthrose. Hein,
oui, bien sûr.
L'arthrose, là aussi, c'est l'allongement de la vie.
C'est la normalité de la vie.
Oui.
La normalité de la vie, on vieillit, les muscles fondent.
Et quand commence l'arthrose commence plutôt tard ou
Je ne peux pas vous répondre. Je pense que ça démarre depuis le départ, mais lentement, et ça s'accélère à la cinquantaine.
Ce qui est très particulier, c'est que la cheville, c'est une articulation extrêmement emboîtée. Donc l'arthrose primitive dégénérative isolée, c'est assez rare par rapport au genou donc ou à la hanche. Et par contre, tout ce qui va retentir sur l'axe du pied, la position, et notamment les entorses à répétition, vont favoriser des usures un peu désaxées, et donc à terme, provoquer ces arthroses.
Ou des malformations, parfois des articulations qui sont au-dessus, quelqu'un qui a les jambes marquées, ou qui est en hallux varus ou valgus, ça peut...
Tout à fait.
Alors c'est vrai que donc vous avez créé l'Institut de la cheville et du pied à Paris. En ce moment vous travaillez aussi à la clinique Blomet.
Oui, tout à fait.
Pourquoi cet institut? Il y a pas beaucoup de chirurgiens qui sont spécialistes de la cheville et du pied en France.
Ça se développe, mais quand on a créé cet institut il y a une dizaine d'années, c'était très rare. Et surtout, même dans notre groupe, on a notre propre spécificité. C'est difficile de répondre à une demande générale. Donc l'intérêt d'un centre, c'est que une personne qui vient avec un problème spécifique va être automatiquement gérée.
Alors c'est vrai que la cheville, donc, si vous êtes spécialiste, vous n'allez pas me contredire, c'est une articulation, une zone qui est très complexe. Voilà, vous allez me montrer pourquoi cette articulation est très complexe.
Alors, je vous ai dit tout à l'heure que c'était très emboîté, puisque vous avez donc l'os du pied, le talus, qui est donc encastré en fait entre les deux malléoles du tibia et de la fibula. Donc, on pense que c'est simplement un mouvement de flexion-extension, mais pas du tout en fait. Il y a des mouvements un peu comme dans le genou, de rotation.
Très léger.
Oui, tout à fait. Mais ça prépare en fait l'adaptation du pied aux déclivités du sol. Et le pied, c'est un organe extraordinaire. Ordinaire avec des programmes automatiques. Et en fait, dans la cheville, ça démarre dans la cheville et après, si vous voulez, il y a tout un tas de connexions avec les autres articulations dans l'arrière-pied et puis après le médio-pied qui permettent l'adaptation à toutes les situations, en fait, quelles que soient les activités. Et donc, la cheville, c'est le pivot central, je dirais, de l'arrière-pied. Et donc, il y a une certaine fragilité parce qu'il y a il y a cet emboîtement et qu'on n'a pas dans d'autres articulations.
Et comme sur le genou, le poids aussi a une action importante.
Alors oui, chaque fois que vous levez le talon pour passer d'un pas sur l'autre, c'est 5 fois le poids du corps, donc dans une zone qui fait 10 cm carrés, donc ça, c'est des forces énormes. Quelqu'un qui pèse 80 kg, vous voyez ce que ça fait tout de suite. 5 fois le poids du corps en compression et 1 fois le poids du corps en cisaillement.
Alors j'imagine que on a vu les causes, hein, l'arthrose, la pratique sportive, les traumatismes, etc. Donc, ensuite, il faut traiter. Donc, les traitements aussi, donc de la cheville, sont aussi assez spécifiques. Hein.
Total, tout à fait. On a des chirurgies qui ressemblent un petit peu aux autres, comme les ligamentoplasties, qui servent à réparer une instabilité. Mais il y a également maintenant des évolutions, on va dire, sur des lésions qui sont un peu spécifiques à la cheville, qu'on appelle des LODA ou des LODT, qui sont des petites zones nécrotiques qui aujourd'hui ont fait de l'évolution au niveau thérapeutique.
D'accord. Donc, il y a la chirurgie, évidemment, il y a ligamentoplastie, il y a aussi les infiltrations.
Tout à fait. Il y a toute une ligne de traitements médicaux au départ. Mm-hmm. Donc, on peut infiltrer. Alors, les rhumatologues infiltreront des corticoïdes, mais ça, c'est pas très bon pour les tissus à terme.
C'est bien de savoir.
Voilà, donc il ne faut pas abuser. Mm-hmm. On peut infiltrer de l'acide hyaluronique, qui est un composant du cartilage et qui va en fait préserver le cartilage restant quand il y a de l'arthrose débutante. Donc c'est un peu ce qu'on fait dans le genou, mais ça marche très bien dans la cheville. Et puis après,
il ne remplace pas, donc il le préserve.
Tout à fait.
Qu'il nourrit.
Et après, donc Christophe en parlera peut-être plus que moi, tout ce qui est donc plasma riche en plaquettes, facteurs de croissance, autologues, donc à partir de notre propre sang, donc ils sont injectés avec éventuellement cet acide hyaluronique et qui permettent de temporiser dans certaines arthroses, d'attendre l'heure de la chirurgie, quelle qu'elle soit.
D'accord. Évidemment, le cartilage ne repousse pas.
On y arrive un peu maintenant. On arrive à reproduire certaines plages cartilagineuses. Alors, pas forcément toute la cheville, parce que c'est très compliqué quand la cheville est déformée, mais sur des zones de défect, maintenant, on peut faire repousser grâce à ces thérapies cellulaires, puisqu'aujourd'hui, on utilise...
On applique la thérapie cellulaire.
On utilise d'une part les facteurs d'activation, c'est-à-dire ce qu'on appelle les PRP, plasma riche en plaquettes, ou PRF, plasma riche en fibrilles. On peut utiliser aussi des cellules souches indifférenciées, qu'on prélève dans les os, notamment le bassin. Et ces cellules, plus les inducteurs, arrivent par une mémoire cellulaire à régénérer un fragment articulaire, voire un défect.
D'accord. Ça, c'est le souffle quand même, parce qu'on a toujours dit que le cartilage n'est pas vascularisé. Donc,
oui, on a toujours dit aussi que les nerfs ne repousseraient pas vite. On va y arriver un jour ou l'autre. Ouais. Donc je pense que ça change un petit peu. Et ces facteurs d'activation qu'on a utilisés depuis 10 ans en France dans les tissus, aujourd'hui, on l'utilise à l'intérieur de l'os pour accélérer cette reproduction, ce qu'on ne faisait pas avant. Et on a des résultats quand même surprenants aujourd'hui.
Alors, il y a aussi les prothèses.
Oui,
il y a les prothèses. Ce qui est fou, c'est qu'il y a 150 000, j'ai vu qu'il y avait 150 000 prothèses de hanches par an, 100 000 de genoux et 500 seulement de chevilles.
500 les bonnes années.
Pour quelle raison ?
C'est confidentiel, c'est compliqué. La prothèse de cheville, ce n'est pas la prothèse de hanche. Ça existe depuis 50 ans, mais ça marche bien depuis 20 à 25 ans. Il y a eu pas mal de problématiques. Donc, pour que la prothèse de cheville marche, il y a deux aspects. Il y a l'aspect de l'implant lui-même, avec sa spécificité, vu la complexité donc anatomique. Et puis après, il y a l'aspect, je dirais, chirurgical de pose. Et nous, par exemple, à l'ICP, les prothèses de cheville, on les pose à deux chirurgiens, parce que ça ne tolère pas l'erreur. Et quand on se met dans les bonnes conditions...
Deux chirurgiens pour une si petite surface.
Voilà. Ouais. Voilà. Quand on se met dans les bonnes conditions, avec la bonne indication opératoire et la bonne technique, en général, on a des bons résultats, qui, sans être ceux des prothèses de hanche à 99,5%, sont quand même très, très, très honorables, avec des survies d'implants à plus de 10 ans, 15 ans.
D'accord. Voilà. Mais c'est une chirurgie un peu...
Alors, il faut pas la
très
faire...
sélective, quoi.
Oui, il faut pas aller n'importe où pour se faire une prothèse de cheville. On est peu en faire en France. En faire régulièrement, je veux dire. En général, les patients font le tour, ils connaissent très bien.
On a beaucoup parlé il y a quelques années d'algodystrophie, c'est-à-dire de douleurs séquellaires après les interventions de cheville. Est-ce que c'est toujours le cas ou il y a des progrès là-dessus ?
Alors, il y a des progrès sur les chirurgies réglées, qu'on appelle nous, c'est-à-dire tout ce qui est chirurgie secondaire, la plupart du temps, sont encadrés par un traitement préventif, notamment la vitamine C qui était reconnue, les antioxydants, etc. Mais les interventions étant maintenant très limitées et rapides, finalement, il y a moins d'agressions. L'algodystrophie reste toujours présente dans les traumatismes, essentiellement.
D'accord. On peut parler maintenant de peut-être du futur du traitement de la cheville. Alors, est-ce que votre chirurgie sera assistée peut-être par des robots ? Est-ce qu'on pourrait opérer grâce à la réalité virtuelle ? Est-ce que...
Oui, je pense qu'il y aura évidemment une évolution par la technicité. On a déjà maintenant des micro-amplis qui nous permettent de faire des chirurgies percutanées qui se sont maintenant développées pour réaxer les chevilles sans avoir besoin d'ouvrir. Ça n'existait pas il y a quelques années. Les robots, on les a utilisés dans les grosses articulations. Nous, le problème, c'est l'encombrement. Mais par contre, on nous permet maintenant beaucoup avec des fantômes précalculés à l'ordinateur avant pour aller plus vite, pour avoir des axes de section bien supérieurs. Et très certainement, dans l'avenir, on aura cette réalité virtuelle, ça c'est sûr.
Un dernier mot ?
Non.
Conclusion ?
Oui, peut-être la régénération tissulaire aussi, parce que quand même sûrement une voie dans les prochaines années pour régénérer vraiment les tissus.
Parfait, merci beaucoup
Christophe
Sermolèche, merci beaucoup Olivier Lafenêtre. On va à présent accueillir Adel Mebarki, qui est le patron et fondateur de Capcode.
BFM Business, Check-up Santé, au cœur de l'innovation santé.
Adel Mebarki, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes un habitué de Check-up Santé ?
Un peu, oui.
Alors, vous êtes à la base ingénieur. Vous avez fait une école de commerce avec une spécialisation en management de l'innovation. Vous avez fondé Capcode. On dit Cap ou Cap ? Capcode en 2017. Vous êtes membre du conseil d'administration du Healthcare Data Institute et vous êtes chargé d'enseignement à l'université Paris-Saclay. Et vous avez aussi créé, ça c'est l'événement quand même, hein, on va en reparler après, le Health Social Data Day.
Complètement.
En septembre prochain. Donc, en gros, vous tapez l'incruste sur les réseaux sociaux.
Alors, pas exactement, mais
vous
oui.
Vous êtes l'espion de la santé français.
Non, on regarde en fait les comportements des patients à partir de déclaratives spontanées sur les réseaux sociaux. Et on analyse.
Parce que les Français parlent beaucoup de leur santé sur les réseaux sociaux.
Ouais. On a plus d'un tiers de la population française qui s'exprime au quotidien sur sa santé. C'est un peu plus de 40% de la population européenne, un peu plus de la moitié de la population américaine. Donc, c'est une vraie tendance aujourd'hui d'utilisation des réseaux sociaux pour partager son expérience. Et notre travail, c'est de pouvoir récupérer ces déclarations spontanées et les analyser.
Mais quand vous dites les réseaux sociaux, c'est tous les réseaux sociaux ?
Oui, on screen un peu plus de 1,5 million de sources, toutes langues confondues. Donc ça part.
Mais c'est anonyme, c'est.
Alors oui, il y a toute une question de gestion de la vie privée. Donc c'est des analyses populationnelles. On fait pas de l'analyse individuelle. On va pas suivre un patient en particulier. L'idée, c'est de comprendre en fait le comportement de populations spécifiques, des diabétiques, des personnes atteintes de certains cancers, et de faire des analyses statistiques sur des populations.
Donc vous scannez aussi ce qui se dit sur les forums.
Complètement, on part de Twitter, Facebook, Instagram, TikTok, jusqu'aux forums médicaux ou encore les blogs avec des zones de commentaires.
Alors je sais que ça devient banal de le dire, mais vous utilisez l'intelligence artificielle.
Oui.
Donc, vous avez des algorithmes qui scannent en permanence.
Oui, en fait on a des algorithmes qui permettent de rendre de la donnée non structurée, c'est-à-dire du texte, ont une analyse médicale pertinente et scientifiquement valide. Et donc tous nos algorithmes d'intelligence artificielle sont utilisés pour mieux comprendre la réalité du patient au quotidien.
D'accord. Et après, et à partir de ça, qu'est-ce que vous en faites ?
L'objectif, il est à la fois d'accompagner les industriels dans la compréhension du patient et pouvoir proposer des réponses les plus adaptées au quotidien aux difficultés rencontrées par le patient. Et puis aussi d'accompagner les institutionnels sur des enjeux plutôt de santé publique, d'identification de signaux, par exemple sur des enjeux de pharmacovigilance, des enjeux de désinformation, etc.
D'accord, donc votre cible, vos clients, c'est l'industrie pharma, c'est les institutions aussi, la science maladie aussi.
Alors pas encore, avec grand plaisir, mais pas encore.
Alors vous dites aussi que vous le faites, je sais que vous le faites dans d'autres domaines que la santé.
Alors oui, on a eu quelques expériences, en fait on fait de la reproductibilité statistique, donc pour que nos modèles soient les plus performants, on essaie de regarder sur des sujets un peu connexes. Mm-hmm. On l'a regardé dans le sport par exemple,
dans
le foot en particulier, qui est une de mes passions personnelles. Complètement. Et donc ça permet en fait de comprendre si nos modèles sont standards et s'ils peuvent marcher sur différents sujets.
D'accord. Et pourquoi vos algorithmes vous aident à lutter contre les fake news ?
Alors ça c'est un des enjeux qu'on développe beaucoup depuis un an et demi maintenant, c'est que la réalité c'est que si on regarde la position de l'OMS sur le sujet de la désinformation, c'est qu'on est en train de vivre une infodémie. Et l'enjeu il est d'appliquer des visions un peu épidémiologiques, donc la détection de signaux faibles, sur des sujets d'information émergents. Donc l'objectif, c'est de pouvoir dire il y a une viralité sur cette fausse information, il faut absolument prendre la parole d'un point de vue institutionnel pour répondre et éviter que les populations, les citoyens soient touchés par cette désinformation.
Vous avez des exemples, un exemple concret ?
Alors naturellement, on a beaucoup travaillé dans la vaccination. Sur le Covid, vaccination, on a beaucoup travaillé aussi sur les médecines alternatives, sur comment en fait on fait croire à des patients que certains produits qui ne sont ni validés par les autorités, ni qui ont un enjeu médical ou un impact médical, sont repris avec des discours plutôt sur l'enjeu de la médecine alternative et de comment ça peut soigner.
D'accord. Et là aussi, pour ces fake news, donc, vous avez aussi une cible et vous avez des clients qui...
Alors, on travaille avec certains industriels. Aujourd'hui, on est surtout sur de la recherche. On travaille notamment le Sorbonne Center for Artificial Intelligence sur ces enjeux-là, parce que c'est vraiment un enjeu pluridisciplinaire. Il y a de la science de l'information, il y a des mathématiques, il y a de l'épidémiologie. Donc, c'est vraiment cet enjeu de pouvoir collaborer de manière pluridisciplinaire avec des équipes de recherche sur le sujet.
Alors, on parle beaucoup, évidemment, d'intelligence artificielle, mais beaucoup de chat GPT.
Ouais.
Est-ce que ça change un peu la donne pour vous ?
Alors, moi, je suis assez nuancé sur ChatGPT. Non, pas perplexe. En fait, c'est un outil technologique qui est assez extraordinaire. Maintenant, on est très loin d'avoir une adoption en fait en santé. On parle beaucoup des potentiels. Il y a beaucoup de potentiels intéressants. Après, il y a des notions très simples. C'est comment on évalue, comment on sait que les données sur lesquelles est entraînée, on les connaît pas déjà. On ne sait pas sur quoi est entraîné ChatGPT aujourd'hui. Comment on sait que l'information est fiable. Donc, tous ces enjeux-là d'explicabilité et de fiabilité de l'information va amener en fait une difficulté à intégrer ChatGPT dans nos réalités quotidiennes en santé.
Alors pour finir, donc on va parler de votre congrès que vous avez, que vous lancez, c'est la première édition, le Health Social Data Day, le 26 septembre.
Oui, en fait, l'enjeu de cet événement qu'on co-organise avec les équipes de Tech2Med, c'est de pouvoir en fait faire en sorte d'avoir une journée où l'ensemble des parties prenantes, institutionnelles, privées, patients, industriels et start-up, soient réunis pour mieux appréhender ces sujets. Parce qu'aujourd'hui, on se rend compte que c'est une discipline qui est intéressante et qui est de plus en plus fiable d'un point de vue scientifique. Encore faut-il qu'il y ait un bon cadre réglementaire, qu'il y ait une réelle compréhension des limites des outils, mais aussi d'avoir une vision pragmatique. Aujourd'hui, on parle des réseaux sociaux, ça a des avantages très forts dans le partage d'expériences, mais ça a aussi des menaces à travers la désinformation dont on vient de parler. Donc l'enjeu, c'est pendant toute une journée de pouvoir balayer l'ensemble de ces sujets et d'avoir une vision prospective sur comment va se développer cette approche.
Des experts de renommée.
Bien sûr. Alors on a notamment l'ouverture de l'événement qui est fait par le docteur Graciela González Hernández, qui est une chercheuse aux États-Unis à Cedar Sinai sur l'intelligence artificielle et le traitement des réseaux sociaux, qui va ouvrir notre événement. On aura l'occasion aussi d'avoir Tristan Mendes France, par exemple, qui va nous parler plutôt des sujets de désinformation. On aura des représentants normalement de la CNIL et de la HAS à cet événement-là. Donc l'enjeu, c'est vraiment d'avoir une vision très écosystémique sur le sujet.
Bon, vous mettrez au courant Check-up Santé.
Avec grand plaisir.
En priorité.
Avec grand plaisir.
Merci beaucoup, Adèle Mebarki.
Merci.
Merci. Voilà, c'est la fin de cette émission. On se retrouve avec plaisir la semaine prochaine.
At Highland, we're all about celebrating little wins and little ways to innovate digital processes. There's no customer pain point too small for us to help with. Maybe that's why more than half of the Fortune 100 looks to Highland to connect their content and data, improve processes, and turn little efficiencies into big wins for their customers and clients. Highland, intelligent content solutions for innovators everywhere at highland.com.